l'époque, on en a conclu que, évidemment, le serpent est une modalité sensorielle en pleine voie de régression. Là-dessus, sont venus les travaux de Freud, qui a rajouté une couche en disant, évidemment, que l'être humain devait refouler un certain comportement animal. Le fait que lorsqu'on prend l'ascenseur, aujourd'hui, on ne saute pas sur la première personne qui pourrait nous attirer sur le plan de la mobilité olfactive, eh bien, on ne le fait pas parce qu'on refoule certains comportements animaux. Voilà un petit peu le contexte à la fin du 19e siècle. On avait aussi très rapidement compris quelles étaient les modalités de codage, comment notre cerveau comprend le milieu dans lequel nous évoluons. Newton avait fait des travaux avec aussi Dalton sur la vision, l'audition, la distorsion, les modalités du toucher. Ces quatre modalités-là, on a très vite compris quelle était la base du codage pour notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est si je regarde une lumière bleue, verte ou rouge, en fonction de la position des cellules qui vont être activées dans l'organe sensoriel. C'est évident aussi sur le toucher. Hein, vous pouvez fermer les yeux, puis si quelqu'un pose son doigt sur votre main, bien vous savez exactement où il a positionné son doigt, parce qu'il y a un câblage qui va se faire de façon précise entre l'organe sensoriel et le cerveau. Donc, une modalité qui est relativement facile à comprendre, un répertoire topographique des organes sensoriels venant se projeter comme un miroir dans le cerveau. Alors, en 93, donc c'est là où on commence un peu à mieux comprendre l'olfaction chez l'homme, en 93, on découvre que des cellules sensorielles placées dans la cavité nasale vont décider d'exprimer un récepteur. Et donc, on va regarder comment ces cellules vont projeter dans le cerveau, et on s'aperçoit, et donc là, on va encore commettre une erreur en 93, et après, évidemment, on va s'apercevoir que les cellules qui vont reconnaître l'odeur de fraise, par exemple, vont venir projeter dans des régions précises du cerveau. Donc, on va encore retomber dans ce cliché. Le monde externe se reflète sur donc notre cerveau selon des cartes. Erreur. Erreur parce qu'on va s'apercevoir ensuite avec l'imagerie fonctionnelle et d'autres techniques que si, par exemple, vous êtes en train de sentir l'orange, vous avez ce patron, hein, comme un patron d'un couturier, par exemple, vous avez ici des objets qui sont donc les projections. Eh bien, cette image est vraie à un instant T. 10 000 secondes plus tard, vous avez ça. 10 000 secondes plus tard, vous avez ça. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est que ce n'est pas du tout une dimension spatiale, c'est une dimension qui prend en compte la dimension temporelle et la dimension spatiale. Donc, et ça, ce sont des travaux qui ont à peine une dizaine, une quinzaine d'années. De comprendre que le monde olfactif se projette dans le cerveau, selon des cartes, mais qui sont des cartes dynamiques. Alors, je n'aurai pas le temps aujourd'hui, puisqu'il me faudrait une autre heure, probablement, pour discuter avec vous du rôle de l'apprentissage, par exemple. Apprendre les odeurs, c'est rendre le contour de ces cartes beaucoup plus saillant. Et c'est éviter que ces cartes, maintenant vous l'avez compris, sont dynamiques, bien se chevauchent. Donc, lorsqu'on apprend à reconnaître les odeurs, on apprend à ce que ces cartes qui vont donc évoluer dans le temps, reste toujours le plus distinct possible. Parmi les propriétés qui montrent donc l'olfaction, c'est toujours dans le milieu, 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 dans le milieu,
grâce à mon partenaire. Alors, il est vous savez, pour être une journée, pour avoir c'est pour être la facture, 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 c'est pour Thank you.
Thank you.
savoir cette critique, et que dans le code de la capacité de savoir à quel point on s'est